Bonjour à toutes et à tous.
C'est Stéphane Croza en studio avec Calista Hortal, Nawel Labrache, Titouan Châtelon et Louis Chombard. Bonjour à tous les quatre et toutes les quatre.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes ici pour présenter les résultats de vos travaux ce semestre dans le cours WE01 Questionner le web. Donc la première intervention sera donc par Titouan et Louis sur la régulation du numérique chinois entre pacification sociale et capitalisme de surveillance. Et la deuxième par Calista et Nawel sur ChatGPT. C'est juste un outil, point d'interrogation, ou alors il fallait que je mette l'intonation. Eh bien donc le cours WE1, on aborde divers sujets, mais par exemple celui du fonctionnement de l'histoire du web et de l'internet, ou encore du capitalisme de surveillance, sur lequel on va revenir avec l'intervention notamment de Louis et Titouan. Et puis on parle également des différentes alternatives, on parle de culture libre, et puis on va aborder aussi eh bien nécessairement la question de l'intelligence artificielle. Voilà pour cette introduction, Louis et Titouan, si c'est OK pour vous, je vais vous laisser démarrer. Donc la régulation du numérique chinois entre pacification sociale et capitalisme de surveillance, c'est quand vous voulez.
Bonjour, nous sommes deux UTC1 et dans le cadre de notre UVW1, comme l'a dit Stéphane Croza, nous allons faire l'analyse d'un article portant sur l'impact du secteur numérique chinois sur sa société. Cette analyse se composera d'une présentation de l'article suivie de la vulgarisation d'une notion de cours et enfin de leur lien. Pour finir, étant tous les deux partis à Shanghai durant un semestre d'échange, nous nous permettrons de faire notre point de vue sur le sujet exposé. Je vais laisser Titouan commencer avec la présentation de l'article.
Alors, merci. Je vais enchaîner. L'article d'analyse politico-économique nommé « Pourquoi la Chine s'en prend à ces géants du numérique » a été publié sur le site Uzbekirika. Ce dernier a été publié par Pablo Maillet le 5 août 2021. Et ce site est celui d'un magazine trimestriel français axé plutôt futurologie et détenu par le groupe CMI, donc un acteur majeur du paysage médiatique européen. On peut donc considérer que la source reste très fiable au vu de son caractère spécialisé et donc apporte une expertise sur le sujet étudié. En revanche, on pourra noter que cette source est européenne. Il est donc possible que les informations rapportées et les avis donnés soient biaisés au sujet de la Chine. En effet, le point de vue occidental peut parfois être influencé par des idées reçues ou des clichés vis-à-vis de la Chine. Par exemple, Wolfgang Kubin, un sinologue allemand, a déclaré que selon lui, les reportages des médias occidentaux sur la Chine sont biaisés et injustes. Le contenu de cet article est soumis au droit d'auteur. Toute reprise ou réécriture doit se faire dans le cadre privé. En fin d'article, l'auteur aborde un fait important. Il fait remarquer que le revirement de la Chine sur le plan économique. Il est à noter que l'article est publié dans une période de forte régulation du secteur numérique chinois par Pékin. Il faut le prendre en compte. Dans l'avant-dernier paragraphe, on comprend que Pékin abandonne petit à petit la voie américaine pour la voie allemande. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est cette voie correspond au changement de modèle économique qu'opère l'Allemagne depuis quelques années. En fait, elle est contrainte de faire évoluer son industrie vers des technologies de pointe, qu'elles soient industrielles ou stratégiques, pour des raisons de compétitivité. Cela est confirmé par la phrase suivante, un virage politique visant à réorienter vers d'autres secteurs technologiques encore plus stratégiques que celui des services Internet grand public. Soit la mise en avant d'un modèle à la Siemens. L'enjeu du contrôle d'information, si le cœur de cette voie allemande est bien l'amélioration industrielle et la mise en avant de nombreux secteurs comme l'intelligence artificielle, a une double implication. Ces technologies sont bien celles qui actuellement alimentent l'organisme de surveillance nationale. Elles sont donc primordiales pour accroître cette surveillance ainsi que le contrôle d'information. En effet, en 2008 déjà, Siemens s'alliait à Nokia pour développer Mega Eyes pour China Telecom. Ce système complexe de caméras interconnectées était à l'origine destiné à la surveillance des JO de Pékin, mais restera en service après coup. On peut y voir ici un signe avant-coureur de la volonté du gouvernement chinois d'accroître la surveillance qu'il exerçait déjà sur sa population.
Je vais continuer sur la vulgarisation d'un concept de cours, le capitalisme de surveillance, sa définition, ses principes et ses critiques. Donc tout d'abord, la notion de capitalisme de surveillance évoque un modèle économique dans lequel les grandes entreprises ont pour but de capitaliser et donc de monétiser les données personnelles des individus. Ce modèle vise à créer et dominer un nouveau type de marché, le marché des prédictions comportementales. L'accumulation du capital ne passe donc pas par la production de biens, mais par la monétisation des données, souvent comportementales, transformées en produits permettant de prédire, puis de façonner, les actions futures des individus. Le capitalisme de surveillance est avant tout une mutation du capitalisme moderne. Son principe fondamental n'est pas politique, mais strictement économique. Il repose sur l'extraction de l'expérience humaine, considérée non pas comme une fin en soi, mais comme une matière première gratuite. Ce modèle fonctionne selon une logique industrielle précise. Premièrement, comme j'ai dit avant, l'extraction. Les entreprises captent nos données comportementales. Deuxièmement, la prédiction. Ces données sont traitées pour fabriquer des produits de prédiction qui anticipent ce que nous allons faire. Et troisièmement, la vente. Ces prédictions sont vendues sur un marché à des entreprises tierces qui cherchent à sécuriser leurs profits en éliminant l'incertitude. C'est seulement une fois ce mécanisme compris que l'on peut aborder la critique formulée par Shoshana Zuboff. En effet, cette professeure universitaire écrit en 2020 dans son livre « L'âge du capitalisme de surveillance » « Nous ne sommes pas non plus, comme quelques-uns l'ont répété, le produit des ventes de Google, mais bien au contraire, nous sommes les objets d'où sont extraites les matières premières. » Cette citation fait assez vite comprendre le point de vue de cette autrice. Le capitalisme de surveillance fonctionne alors comme une industrie qui a pour seul but d'extraire non pas notre argent, mais notre comportement. L'instrumentalisation de la population par les entreprises est permise grâce à des systèmes de surveillance de plus en plus élaborés. Ces systèmes peuvent donc être un poison pour la société, selon Zuboff, et pourraient enrichir le pouvoir de certaines entreprises sur la société actuelle. Mais alors pourquoi ces multinationales se concentrent-elles sur l'étude d'individus quelconques ? Eh bien, ces comportements peuvent servir comme une base pour des algorithmes de prédiction qui, au final, pourraient être vendus à des acteurs économiques. Pour comprendre comment ce système s'étend, il faut visualiser les trois acteurs en jeu. Le premier, les plateformes, elles possèdent la technologie et gèrent la collection des données de ses utilisateurs. À titre d'exemple, les plateformes les plus connues sont Google, ou pour rester dans le thème de la Chine, Alibaba. Le deuxième, les industriels, qui sont dans notre cas les clients, ce sont les entreprises classiques qui achètent les prédictions pour garantir leurs ventes. Le dernier, l'État, c'est le point crucial pour notre sujet. L'État a besoin de contrôle social plutôt que de tout réinventer. Il peut se greffer sur les outils de surveillance déjà bâtis par les plateformes privées. C'est un croisement d'intérêts. Les outils créés pour le profit deviennent des outils de contrôle politique. Cette surveillance de masse entraîne de nombreuses conséquences. L'une des premières est évidemment l'atteinte au droit à la vie privée. Avec l'augmentation de cette surveillance, la population sera alors filmée et enregistrée à tout moment. Un individu ne sait alors pas si ses données sont stockées à jamais et si ces dernières peuvent ressortir contre lui dans le futur. Je n'ai rien à me reprocher, doit donc se conjuguer au passé. Je vais laisser la parole à Titouan qui va nous faire l'articulation entre le lien avec le cours.
Donc oui, je vais essayer de rapprocher nos deux premières parties. En 2021, le Parti communiste chinois, ou PCC, est en pleine phase de reprise en main des grandes entreprises nationales. L'objectif est d'orienter leur développement pour bénéficier à la nation dans son ensemble. C'est une démarche qui dépasse simplement le cadre économique chinois. En effet, l'économie de la Chine est ce qui fait sa force sur le plan international. Il est donc vital pour Pékin de préserver cet atout de taille. Ce dernier se méfie cependant d'un développement trop rapide et trop exclusif du secteur numérique, qui pourrait nuire à son industrie. Il s'agit donc ici de préserver et de moderniser cet avantage industriel, sans pour autant le remplacer. Dans cette nouvelle orientation, le contrôle accru de la population devient un outil politique, comme on l'a dit, un élément central de la stratégie d'État. Le secteur numérique, avec ses avancées en IA, offre les outils pour cela. Et en parallèle, les grandes plateformes technologiques chinoises collectent des quantités massives de données personnelles, qui sont donc employées par l'État. Dans le capitalisme de surveillance, cette collecte de données, c'est la phase d'étude. Pour illustrer comment cette collecte de données impacte les entreprises, puisqu'en effet, il y a un certain impact ensuite, on peut prendre deux exemples concrets. Pour le premier, il est rapporté dans un article de China Briefing, écrit par Sophie Yu et Emilia Tsin en 2021. Il concerne une affaire à propos de la plateforme de taxi chinoise Didi, qui a été forcée de revoir sa collecte de données au sein de ses applications, et de se conformer à de nouvelles règles concernant la sécurité des données. Officiellement, l'intervention était menée afin d'assurer la protection des informations des utilisateurs. Et elle était issue par le gouvernement chinois. Cette action réglementaire visant à durcir la surveillance a immédiatement menacé le modèle commercial et la stratégie internationale de l'entreprise. A l'inverse, on peut aussi voir que réduire cette surveillance, donc l'effet inverse, peut aussi impacter un modèle économique. Dans un article écrit en 2022 par Kinshuk Gerat, nommé « Mobile Advertising and the Impact of Apple's App Tracking Transparency Policy », on peut en effet relever que la décision d'Apple, une entreprise américaine, en 2021 de limiter le pistage inter-app a déstabilisé le modèle économique des apps dépendantes de la publicité ciblée. Ainsi, un bon nombre d'entreprises ont été contraintes de réinventer leur stratégie industrielle suite à des modifications légales. On peut voir que ces mesures légales ont donc un fort impact sur les modèles économiques des entreprises et que chaque modification a des impacts plus ou moins importants. Cependant, elles sont nécessaires à la deuxième phase du capitalisme de surveillance, la phase de contrôle. In fine, le Parti communiste chinois veut préserver l'industrie chinoise tout en suivant l'évolution technologique du monde d'aujourd'hui. Il mène pour cela une politique de surveillance afin d'orienter sa population et d'assurer la pérennité de son modèle économique. Pour y parvenir, il est prêt à intensifier la surveillance. Mais c'est là qu'apparaît un dilemme majeur. Il est difficile d'allier une surveillance excessive, qui est la base du capitalisme de surveillance, à une vitalité économique importante, qui est elle-même le fondement du capitalisme tout court. D'un côté, trop de contrôle nuit à l'entreprise. L'exemple de la plateforme Didi est éloquent. Lorsque le gouvernement a imposé des exigences strictes en matière de sécurité de données, cela a immédiatement mis en péril le modèle économique de l'entreprise. Le cas chinois nous apprend donc que l'équilibre est fragile. Le gouvernement doit affirmer son contrôle pour des raisons politiques, mais il doit le faire sans paralyser la compétitivité et l'innovation de ses propres géants technologiques. C'est un équilibre que la Chine cherche à atteindre et qui soulève bien entendu de sérieuses questions morales et éthiques concernant la liberté individuelle.
Pour finir, je vais faire la dernière partie sur l'articulation et les ajouts personnels. Donc pour finir, nous souhaitions apporter un éclairage personnel. En ayant vécu un semestre à Shanghai, nous avons été témoins directs de ce système. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas l'oppression, mais l'efficacité. Nous avons évoqué plus tôt l'exploitation des travailleurs du numérique. Sur le terrain, la réalité est celle d'un confort extrême pour le consommateur. Se faire livrer n'importe quoi en moins de 30 minutes dans une ville immense est devenue la norme. De plus, nous n'avons jamais connu l'insécurité ni la peur dans les rues de Shanghai. Cela illustre parfaitement la force du capitalisme de surveillance. Il se rend indispensable par le confort qu'il procure, ce qui nous pousse à accepter, voire à oublier la collecte de données nécessaires pour son fonctionnement. Contrairement au cliché d'un Big Brother oppressant dépeint par certains médias européens, le sentiment sur place est très différent. On ne se sent pas épié en permanence. Pourquoi ? Parce que, comme l'explique Zuboff, cette surveillance est conçue pour être fluide et intégrée. La question que nous nous sommes assez vite posée est donc, avons-nous intériorisé cette surveillance et donc inconsciemment changé notre comportement ? Si cela est vrai, est-ce pour le mieux ou ce façonnage de comportement est contraire aux libertés fondamentales humaines ? Nous vous laissons juger de ces questions par vous-même, car nous-mêmes n'avons pas réussi à y répondre. Voilà, notre partie est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Il est nécessaire de préciser que l'intelligence artificielle a été utilisée à des fins uniquement de grammaire et d'orthographe. Nous voulions remercier M. Crozat d'avoir pu nous laisser présenter notre article à la radio et de nous avoir aidés durant tout ce projet. Je lui laisse donc maintenant la parole.
Merci à tous les deux pour votre présentation donc sur le capitalisme de surveillance vu depuis la Chine, on va dire, ou en tout cas depuis ici vers la Chine. Et bien à présent, pour la deuxième partie, on va donc, vous avez terminé en mentionnant l'usage que vous aviez fait de l'IA pour corriger votre texte. Et bien on va enchaîner sur ce sujet donc avec Calista et Nawel. ChatGPT, donc est-ce juste un outil ou est-ce plus compliqué que ça? Quelque chose comme ça, vous allez nous...
Effectivement.
Eh bien, c'est parti.
Alors, bonjour à tous. Nous sommes Nawel et Calista, élèves à l'UTC, et nous vous présentons aujourd'hui notre UV de W20. Dans un premier temps, nous présenterons l'article, puis ma camarade nous expliquera ce qu'est le technosolutionnisme, une thématique importante de notre cours, et nous conclurons enfin sur le lien entre ces deux parties. On entend souvent dire que ChatGPT n'est juste qu'un outil technologique dans notre vie, mais l'article que nous allons vous présenter aujourd'hui nous invite à revoir cette affirmation. L'article, publié en juin 2025 dans la revue Terrestre, donc la revue des écologies radicales, propose de déconstruire l'expression, devenue banale, « ChatGPT, c'est juste un outil ». L'auteur, prénommé Olivier Lefebvre, a déjà été présenté à l'UTC lors d'une conférence pour son livre « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Et selon lui, cette vision instrumentale est réductrice et passe à côté de l'essentiel. En fait, cet article nous invite à déplacer le regard non plus seulement sur ce que nous faisons de l'IA, mais sur ce que l'IA fait à notre société. Je vais vous expliquer les raisons de cet argument. Dire que ChatGPT serait un outil neutre, entièrement contrôlé par son utilisateur, revient à le confondre avec un quelconque instrument artisanal. Et cette manière d'en parler rassure les gens, mais elle occulte les différences fondamentales entre un objet simple et un système technologique massif comme l'IA. L'article rappelle également que derrière une IA générative se cache une chaîne entière, des mines où l'on extrait des métaux, des usines pour produire les composants, des data centers de grande consommation, du travail humain, souvent précarisé d'ailleurs, mais très intense pour entraîner, filtrer et maintenir ce modèle. Qualifier cela de simple outil, c'est en fait ignorer tous les efforts mis en place pour le rendre possible. De plus, l'auteur présente un contre-exemple, le marteau ou encore le couteau à pain, en différenciant ChatGPT de ces objets. Les conditions de possibilité et leur nature sont différentes en fait. Le marteau permet une seule action, impactant uniquement l'utilisateur et le marteau. Ainsi, les mettre sur le même plan n'est pas plausible en fait. ChatGPT n'est pas seulement un objet, mais un système. Nous devons insister sur un autre point, que l'IA n'est pas seulement un instrument individuel, mais elle modifie notre manière de travailler, d'apprendre, de vivre tout simplement. Aujourd'hui, ne pas utiliser ces systèmes peut devenir un handicap, ce qui crée un phénomène de verrouillage socio-technique. Donc, c'est-à-dire que la société s'adapte et devient dépendante de ce concept. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de bon ou mauvais usage, comme on le dit. Par exemple, les étudiants qui utilisent déjà l'IA vont communément l'utiliser dans leur future activité professionnelle. On voit se multiplier les formations à destination des étudiants et des personnels enseignants pour intégrer les IAG dans les pratiques pédagogiques. De même, l'État investit par exemple 30 milliards dans l'IA plutôt que la permaculture ou la transformation des métiers, pour ces raisons. L'adaptation et la sensibilisation du public représentent en fait une partie indispensable au développement de l'IA. Selon Olivier Lefebvre, affirmer que l'IA n'est qu'un outil sert aussi à minimiser les risques, à accélérer son adoption et surtout à éviter les questions politiques que pose son développement. Dépendance, consommation de ressources, la place du travail humain, etc. En résumé, réduire ChatGPT à un simple instrument, c'est passer à côté de ce qu'il produit vraiment, des transformations sociales et matérielles considérables. On va maintenant faire une petite parenthèse sur cet article et laisser Calista nous parler de sa découverte du jour.
Merci beaucoup Nawel, j'avais vraiment envie de pouvoir leur en parler justement. Alors à la BU, l'autre jour, j'avais besoin de feuilles pour un projet et c'est en passant dans les rangées que je me suis rendu compte du nombre de personnes qui n'utilisent plus que maintenant des tablettes et des ordinateurs. Aujourd'hui, la technologie est présentée comme solution à tous les problèmes, peu importe leur domaine. Elle permet d'améliorer notre confort de vie, notre efficacité quotidienne ou même de dépasser les limites du possible. Mais est-elle vraiment la solution à tout ? C'est dans la recherche d'une réponse à cette question que je suis tombée aujourd'hui sur le terme de solutionnisme technologique, aussi appelé technosolutionnisme. J'imagine que tu vas me demander ce que c'est, Nawel. Eh bien, d'après la définition tout droit sortie du Larousse, le technosolutionnisme est une idéologie qui consiste à rechercher des solutions technologiques aux problèmes sociaux, écologiques ou d'autres, sans en examiner les causes profondes. C'est donc un mode de pensée suivant lequel tous les problèmes de la société, qu'il s'agisse de la sécurité, de la santé, des transports, de l'éducation, pourraient être résolus par des solutions technologiques mises à disposition des individus, renforçant alors une idéologie selon laquelle nous pourrions arriver à atteindre une société parfaite, sans problème, avec la simple création de solutions techniques. Cependant, lorsque je suis allée me pencher sur notre cours, je suis tombée sur une description de Stéphane Croza des plus paradoxales. En réunissant tous les différents attributs de la pensée de technosolutionnisme, il en est venu à dire que c'est l'idée de sauver la technique grâce à la technique, ce qui est assez étrange. Un bon exemple de ce concept concret pour vous illustrer la chaîne du solutionnisme technologique est la création de drones pollinisateurs. Alors concrètement, leur but est de permettre la pollinisation des fleurs. Dans la pratique, ils permettent de répondre à la baisse de plus en plus importante du nombre d'abeilles. Sauf que, réellement, cette approche traite seulement le symptôme et non pas la cause. En faisant ainsi, il n'est pas question d'agir sur les pesticides qui entraînent la baisse de la faune, ni non plus d'agir sur la destruction des habitats des animaux. Au final, l'on nous fait croire qu'une machine est capable de remplacer un écosystème complexe, alors que réellement, elle crée une dépendance technologique coûteuse au lieu de protéger directement la biodiversité. Alors cet exemple concret d'une solution technique apportée à un problème technique, en retournant sur notre définition, la partie sans en examiner les causes profondes fait enfin sens. Dans la recherche d'une solution, les origines des problèmes sont totalement occultées et continuent à grandir. Ainsi, bien que le problème d'origine puisse être une conséquence d'une autre technique, cela est totalement ignoré et l'on entre dans un enfermement technologique dans lequel le technosolutionnisme est présenté comme la seule et unique voie possible. C'est alors dans ce contexte que l'on perd facilement de vue les objectifs sociétaux et environnementaux qui nous avaient poussés à développer ces technologies dans un premier temps. Alors, pour mieux illustrer ce propos, nous allons vous proposer d'écouter l'extrait d'une vidéo commentant la création par l'intelligence artificielle d'une musique, soi-disant de Drake. Voici « Hot on My Sleeve ». Like Celine or the flats, ain't bumping Justin Bieber, the favor and left. Ain't. She know what she need, all her need, all she blessed, ain't giving. What? They about to run out with this. Yo, that sounds just like Drake. It's Drake, but it's not Drake. Oh, I see why they banned this.
Cet extrait était une musique générée par l'IA et c'était une réaction vraiment très expressive, Calista. Et je pense qu'il n'a pas été le seul à réagir de cette manière. Et je n'ose imaginer ce qu'a dû penser Drake, le soi-disant auteur de cet audio dont les musiques ont permis d'implémenter l'IA qui a fait ce son. Ainsi intervient la question suivante. Si l'IA est un simple outil, de quoi est-il la solution? Ou peut-il être solution à tout?
Très bonne question, Nawel. Alors du coup, l'un des piliers du technosolutionnisme, c'est de croire que la technologie peut régler n'importe quel problème, et l'article « ChatGPT, c'est juste un outil » remet justement cela en cause. Alors dans cet article, on y montre que l'IA est facilement considérée comme une solution évidente, un outil neutre qui servirait simplement à faire mieux, faire plus vite, résoudre des blocages. Or, c'est passer à côté de toute la complexité sociale. Laissez-moi vous parler de Los Angeles. Donc cette ville, que vous connaissez tous de nom, s'est lancée en 2011 un pari très ambitieux, pouvoir prédire la criminalité dans la ville grâce à l'intelligence artificielle. Alors sur le papier, cela aurait permis d'utiliser plus stratégiquement les ressources de la police en orientant les lieux de patrouille grâce à des calculs de probabilité. Cependant, en réalité, les données implémentées dans l'IA étaient biaisées dès l'origine et reflétaient des années entières de préjugés sociaux et raciaux. Le résultat fut simple, la surpolicarisation des quartiers pauvres, le renfort des contrôles et une méfiance accrue des deux côtés. Bien sûr, sans aucunement traiter les causes profondes du problème, telles que les inégalités ou la ségrégation. Ce programme fut donc abandonné en 2019, logique, jugé aussi inefficace que discriminatoire. En revenant sur l'article, nous pouvons mieux comprendre lorsqu'il nous y est dit que l'IA n'est pas une réponse magique. Ce n'est juste pas une solution clé à tous nos problèmes, c'est une technologie qui transforme nos sociétés et recouvre les problèmes pour créer de nouveaux ailleurs. L'article critique justement l'idée que la technologie soit la solution et rappelle qu'il faut regarder ce qu'elle change et pas seulement ce qu'elle améliore ou pas sous le tapis.
Oui, en effet, et de plus, l'article dénonce la vision instrumentale de la technique, c'est-à-dire que traiter ChatGPT ou d'autres IA comme un simple outil revient à minimiser les effets structurels qu'engendre son usage. Donc en fait, l'article rappelle que la technologie ne se résume pas à l'usage qu'on en fait, elle transforme aussi les conditions collectives. Quand on critique le technosolutionnisme, on critique en fait une manière très limitée de penser la technologie, une manière qui se concentre uniquement sur l'usage individuel, comment je l'utilise, est-ce que ça m'aide, et qui oublie complètement les effets collectifs et sociétaux, l'impact sur l'emploi, sur la production du savoir, sur la manière dont on écrit, dont on enseigne, dont on travaille, sur les structures économiques, sur les inégalités d'accès aux technologies. Or, l'article ChatGPT, c'est juste un outil, dit précisément « Attention, si on réduit l'IA à un simple outil, on rate l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que l'IA transforme nos manières de vivre, même quand on ne l'utilise pas nous-mêmes. » Donc l'article nous invite vraiment à déplacer notre regard, et c'est exactement ce que le technosolutionnisme tend à effacer. Donc lorsque l'article dit « ChatGPT n'est pas juste un outil », il s'oppose directement à la vision du technosolutionnisme qui voudrait faire croire que « tant que je m'en sers bien, tout ira bien ». Alors que la vraie question est « qu'est-ce que l'IA change, que je le veuille ou non ? Comment m'adapter à ce changement ?» En bref, le technosolutionnisme nous fait croire que la technologie est là pour résoudre tous nos problèmes. Mais l'article « ChatGPT, c'est juste un outil » nous rappelle ces différents points de vue plus avant-gardistes sur la société finalement.
C'était donc Nawel et Calista de l'UDC, licence CC by SA. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à Nawel pour sa participation.
Merci Calista.
Merci à toutes les deux pour cette présentation. Je précise que Olivier Lefebvre et ses collègues de l'Atécopole ont fait passer une demande de enfin, du coup, un manifeste qui s'appelle « Face à l'IA générative, l'objection de conscience », donc qui propose d'arrêter l'usage en enseignement et en recherche, donc même pour corriger des fautes d'orthographe, par exemple. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question de l'intérêt d'avoir corrigé les fautes d'orthographe pour un passage à l'oral. Mais bon, du coup, c'est pas la question que je vous poserai tout à l'heure. Il y a d'autres questions que vos collègues ont posées. Sur la critique du technosolutionnisme, on peut aussi écouter en ce moment Anna Lombert, ancienne, qui est passée par l'Université Technologie de Compiègne aussi il y a quelques temps. On fait une petite pause musicale et puis on revient avec une question pour chacun, si vous voulez bien. Alors, bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, on est de retour dans les studios de Graphite, 94.9, graphite.net en ligne. Donc, je suis Stéphane Croza. On est dans le cadre du cours de WE1, questionner le web. Et donc, je suis en studio avec Calista, Nawel, Titouan et Louis. Donc, Louis, vous nous avez fait une présentation du capitalisme de surveillance vu par la perspective chinoise. Donc, vu tel qu'il est pratiqué en ce moment en Chine, vous nous avez présenté différents aspects. Et donc, vos collègues nous posent une question que je reformule de cette façon-là et que je vais prolonger un peu Pour faire le lien eh bien avec la présentation également de Nawel et Calista, hein, qui portait sur ChatGPT et le solutionnisme technologique. Donc vos collègues qui sont en ce moment en train d'écouter nous demandent, mais finalement, si on a quelque chose d'un peu classique, mais si on n'a rien à se reprocher dans le cadre de nos pratiques en ligne, si on ne fait pas de recherches bizarres, comme il dit, si on n'a rien posté d'illégal, eh bien dans ce cas-là, est-ce que finalement le capitalisme de surveillance, la surveillance par l'État, est-ce que ce n'est pas OK? Est-ce que finalement, eh bien, ça fait que nous apporter des choses intéressantes, régulation du crime, que sais-je moi, voilà, de la pédopornographie, enfin on peut prendre tout un tas d'exemples comme cela. Donc est-ce que finalement, de ce point de vue-là, ce ne serait pas neutre? Voilà, et donc évidemment je vous tends un peu la perche puisqu'on a vu avant que c'était probablement aussi une manifestation du technosolutionnisme. Mais je vous passe la main.
Merci pour cette question. Tout d'abord, je vais revenir sur la question en elle-même. Il dit si on n'a rien à se reprocher. Comme je l'ai dit dans la présentation, je n'ai rien à me reprocher de la maintenance conjuguée au passé. Si on n'a rien à se reprocher, peut-être qu'en ce moment, on est entre guillemets parfait et qu'on fait des recherches et tout ça, que tout est clean. Mais si on a fait un jour une recherche ou un jour quelque chose dans la rue, on peut étendre ça à la société, quelque chose interdit par la loi. Le seul problème de ce capitalisme de surveillance, si c'en est vraiment un, c'est ce possible stress ou ce possible regret que va créer ce capitalisme de surveillance et que ces données qui vont être collectées et stockées peuvent un jour être sorties pour une légère banalité, pour quelqu'un qui vous accuse pour quelque chose de faux. Et ben derrière, vous allez au tribunal, on ressort ça 10 ans après sur quelque chose que vous avez fait et ça peut toujours ressortir, ça peut toujours être là, ça peut être stocké. Donc, effectivement, même si en ce moment, vous ne faites rien d'illégal, vous ne faites aucune recherche illégale, le problème est peut-être que vous avez eu une jeunesse ou vous avez eu un moment de votre vie passé où vous avez pu faire quelque chose d'illégal, vous avez pu faire des choses illégales sur Internet comme dans la société, et ces choses-là peuvent être ressorties contre vous à un moment où tout ça, c'est fini, où cette période est complètement finie.
Et je peux ajouter
bien sûr.
Aussi, ça peut être seulement, mais pas forcément quelque chose d'illégal, mais juste une critique. Si je prends l'exemple d'aujourd'hui, typiquement avec les États-Unis, je sais que si on veut aller aux États-Unis, en fait, la plupart de nos messages sont filtrés. Et si à un moment, on a pu critiquer les États-Unis pour une raison valable ou non, ce qui est le droit de chacun de critiquer, on peut simplement nous interdire l'accès au pays, ce qui est, je pense, une application concrète de cette surveillance et qui a déjà un fort impact. Et je vous laisse juger si ça représente un problème ou non.
Et je finirai juste par dire que le capitalisme de surveillance, c'est sûrement toute une question d'échelle. C'est-à-dire que le capitalisme de surveillance, comme nous, on en a parlé, comme on est parti en Chine, comment il est pratiqué en Chine, c'est peut-être, à notre avis, à notre simple avis, un peu trop extrême dans le sens où l'accès aux données est complet, l'accès aux messages est sûrement complet. Et vérifier, alors qu'un capitalisme de surveillance peut être plus modéré, il faut trouver une certaine échelle pour pouvoir appliquer ce capitalisme de surveillance dans la société comme sur Internet, afin qu'il soit efficace et non pas n'atteint pas la liberté d'autrui.
Ok, merci. Donc effectivement, vous posez la question de l'échelle. Je vais m'en servir pour faire la transition avec la question que je vais reporter à Calista et Nawel. Sur cette question d'échelle, en fait, c'est l'idée que finalement, c'est à partir ce que vous venez de dire, c'est que c'est à partir d'un certain niveau d'usage que le problème se poserait. Du coup, de votre côté, on pourrait se demander si finalement, si à l'échelle individuelle, en lien, vous nous avez présenté donc ChatGPT, l'outil est-il neutre, en répondant par la négative. Du coup, on peut se demander si à l'échelle individuelle, finalement, est-ce qu'on peut contrôler ces usages, est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un usage de l'intelligence artificielle qui soit que bon, où on fasse attention à que correctement l'utiliser, qui n'ait pas d'effet négatif sur nous à titre individuel. Donc est-ce que dans votre analyse, là, dans l'analyse que vous avez faite à travers le technosolutionnisme et puis l'article de ChatGPT, est-ce que vous êtes un peu inspiré pour réagir à ça?
Alors merci pour la question. Donc parce que l'IA n'est pas seulement un objet que l'on utilise individuellement, on l'avait expliqué tout à l'heure que c'était un système, et ben c'est un système collectif qui produit des effets indépendamment de nos choix personnels en fait. Donc même si en tant qu'utilisateur je décide d'utiliser ou non ChatGPT, les effets majeurs de l'IA se jouent ailleurs, en fait. Donc, on a les décisions clés qui ne sont pas entre les mains des utilisateurs. Donc, ce sont les entreprises qui conçoivent les modèles, qui fixent leurs règles et qui décident de leurs usages possibles ou non. Donc, l'utilisateur arrive, en fait, après cours. On a également les effets qui sont cumulatifs et systémiques. Donc, même si moi, individuellement, je n'utilise pas l'IA, elle peut devenir une norme dans mon environnement, donc dans le recrutement, l'éducation, la production de contenu. Et à ce moment-là, le choix individuel disparaît aussi. Et l'IA transforme les règles du jeu, pas seulement les outils. Donc, elle redéfinit ce qui est considéré comme rapide, efficace, acceptable. Et par exemple... c'est qu'un bon texte, un bon élève, un bon travailleur, et ces normes s'imposent à tout utilisateur ou non.
Par exemple, pour revenir sur l'IA qui peut se généraliser à notre entourage selon notre utilisation, on peut voir que si par exemple on s'en sert pour corriger nos fautes d'orthographe ou nos fautes de grammaire, comme on fait nos deux camarades, ce qui est totalement généralisé aujourd'hui, il n'y a pas de problème, et bien justement on va avoir une augmentation de notre efficacité, vu qu'on passera moins de temps à relire nos propres fautes, imaginons, et on gagnera quelques dizaines de minutes sur la journée. Sauf que si jamais on fait tout ça, eh bien la seule personne qui décidera et qui voudra de son propre chef ne pas l'utiliser sera forcément pénalisée par rapport au temps aux autres, parce que du coup elle devra mettre plus de temps sur des tâches que les autres peuvent réaliser plus facilement. Et à ce niveau-là, par exemple dans les entreprises, il y a toute une revue du niveau d'efficacité, c'est-à-dire que si tout le monde se met à faire en 5 minutes ce que tout le monde faisait avant en 10 minutes, eh bien ça devra devenir la norme, et c'est-à-dire que la charge de travail donnée sera appliquée en fonction de cette norme-là de temps. Donc du coup, on rentre forcément dans un enfermement technologique dont on parlait avant. En tant qu'utilisateur, on peut faire quelques concessions sur notre vie personnelle. Par exemple, il y a des cas aujourd'hui de personnes qui ne savent pas où aller pour manger au restaurant et ils demandent à l'IA. Ça, bien sûr, ça pourrait ne pas arriver, ça pourrait être vu différemment. Ce sont des efforts à faire à titre personnel sur notre propre utilisation de l'IA. Après, je ne pense pas qu'en entreprise, on ait vraiment la main mise, du coup, vu que c'est tout le système qui devient basé sur l'IA.
Merci à toi. C'est ton avis, hein, c'est ça que tu voulais dire. Or, effectivement, comme dans l'UV, on insiste beaucoup sur le fait que ce qui compte, ce ne sont pas les avis personnels, mais plutôt les propositions sourcées, etc. Eh bien, Calista a eu un mouvement de TL. Voilà, elle a arrêté sa phrase en plein milieu. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était très clair. Hein, on voit à travers vos deux interventions qu'un des problèmes posés par la technique, la génération et la généralisation de la technique derrière, c'est vraiment la notion de dépendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un outil rentre dans l'environnement, eh bien, il y a une reconfiguration en quelque sorte de nos normes sociales, comme vous l'avez dit. Et à partir de là, eh bien, il y a une dépendance qui s'instaure et on ne peut pas juste l'enlever. Et c'est en ça, effectivement, que ce n'est pas juste un outil. Même si, in fine, eh bien... on a... J'ai oublié de couper les micros, on dirait. Eh bien, même si, in fine, même le marteau, même s'il y a une dimension plus large, eh bien, même le marteau reconfigure le monde. Mais je ne vais pas faire le cours d'introduction à la philo de la technique maintenant. Je vais vous saluer tous les quatre dire à nos auditeurs que l'on se retrouve dans quelques instants avec la suite. On parlera police prédictive, on parlera Wikipédia, extractivisme attentionnel et à nouveau collecte de données. Eh bien, au revoir à tous les quatre.
Au revoir, merci.